Vous êtes sur RTL.
Nous, évidemment, sous le coup de cette information, d'abord, on apprend quand même que des jeunes ont quasiment tous aujourd'hui des couteaux, parce que ce sont des mineurs, des couteaux qui peuvent tuer dans leur poche ou sur eux, ce qui est quand même extravagant.
Alors, moi, c'est là où, donc déjà, hein, j'essaie de me mettre à la place de la famille, et d'après ce qu'on a sur Le Parisien, cette jeune fille a essayé de s'interposer, donc elle ne fait pas partie d'une bande, donc elle a juste essayé de calmer les choses et elle en est morte. Donc c'est ça qui est dramatique. Après, sur le port d'armes, comme vous en parlez, on a malheureusement, moi, donc comme vous le savez, j'ai 30 ans, nos parents nous ont parlé de bagarres depuis des années, depuis toujours, de chaînes de vélo, de blousons noirs, les violences dans la rue, ça a toujours existé. Et avant, c'était un peu plus vieux, et je vous l'accorde. Mais malgré tout, ça a toujours existé. Il y a toujours eu des armes quand il y a eu les skinheads, quand il y a eu les antifa pour leur répondre, quand il y a eu... Et ces armes, malgré tout, ont toujours circulé. On a tous des couteaux dans nos cuisines, nos placards sont pas fermés à clé, et on n'est pas aux États-Unis où, heureusement, on n'a pas tous des armes à feu chez nous. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui nous protège encore de ce qu'on peut voir de l'autre côté.
Non, mais vous avez raison, ce que vous dites, c'est tout à fait juste. Avant, on avait le sentiment que dans la rue, tu pouvais prendre un marron, si j'ose dire, hein, ou une chaîne de vélo, ou en tout cas, te faire prendre un coup. Mais là, tu peux mourir. C'est-à-dire que c'est ça qui semble différent, c'est que tu sors de chez toi... Et tu peux te dire, si ça tourne mal avec un ado ou un jeune adulte, il a un couteau sur lui, et pour un oui, pour un non, t'es mort.
Exactement. Et c'est là où moi, par mon éducation, on m'a toujours appris à retendre l'autre joue, et je me suis mis en défaut un jour en disant qu'il n'est plus question que j'apprenne à mon fils, malheureusement, de tendre l'autre joue, et que si demain, lui, il se sent agressé, de répondre tout de suite avant de... C'est malheureux d'en venir là.
Oui, alors je ne sais pas s'il faut répondre, je pense surtout qu'il faut éviter.
Mais malheureusement, comme vous dites, moi, ce qui me touche dans tout ça, c'est vraiment l'âge.
Bien sûr, elle a 14 ans, les parents...
C'est tout le reste, malgré tout, on a toujours connu des agressions, on a toujours, malheureusement, mais on en a toujours entendu parler, là, de dire de 14 ans. Pour moi, un des grands soucis de notre temps, c'est les réseaux sociaux où pendant très longtemps, moi j'ai eu des bagarres au collège, j'ai eu des altercations, mais à la fin, quand on rentrait chez nous, on était chez nous, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de surenchère, il n'y avait pas de photos, il y avait et à cause de ces réseaux, nos enfants grandissent dans une ultra-violence où malgré tout, il y a 5 ans de ça, sur les réseaux sociaux, si nos enfants faisaient une erreur en appuyant sur une touche, ils pouvaient se retrouver avec des djihadistes qui découpaient des têtes. Et nos enfants ont vu ça. Et on est dans un monde d'ultra-violence. Tant qu'on ne fera pas une auto-censure par rapport à l'éducation qu'on veut transmettre à nos enfants, de tout ça... On n'arrivera pas à calmer les choses.
Alors en même temps, et c'est là qu'il faut relativiser, Alain Bauer, qui vient souvent sur le micro d'RTL, rappelle que la courbe des crimes de sang baisse quasiment depuis le 15e siècle. Vous voyez, il s'amuse souvent à cette statistique. C'est-à-dire que la société en 1921, elle était sans doute plus violente. Vous alliez aux abords de Paris, vous pouviez vous faire détrousser, tuer, etc. qu'aujourd'hui. Il faut le rappeler aussi, hein, le nombre d'homicides ne fait que baisser depuis des années et des années, même si ça avait repris, je crois, sur les 10 dernières années de manière assez légère. Mais ça, c'est intéressant. Parce qu'on a tendance à dire la société est de plus en plus violente. Non, non. La vérité est que non, précisément non.
Je m'excuse, mais alors peut-être le fait que ce soit médiatisé, je ne parlerai pas de surmédiatisation.
D'une
médiatisation continue et où on va chercher l'information, peut-être que c'est là où des petites agressions qu'on n'aurait pas mis en avant... Il y a des années, on va les mettre en avant tous les jours, et un jour, il se passe ce drame, et c'est la goutte d'eau où on se dit « c'est encore arrivé ». Mais je vous l'accorde, c'est vrai. Bon, il y a eu quand même, il n'y a pas si longtemps que ça, le jeune qui, sur le parvis, je ne me rappelle plus, c'était dans Paris, il me semble, qui lui aussi a failli rester. C'est vrai que c'est des jeunes, le problème, il est là. C'est que c'est des jeunes de 14 ans et qui ne devraient pas... ne devrait pas avoir des excès de violence comme ça. Et il y a une chose qu'on prend pas aussi en compte, c'est les jeux vidéo. Maintenant, dans nos jeux vidéo, on tue tous les jours.
Si les meurtres occupent une large place dans la chronique des faits divers, on oublie souvent de rappeler une tendance très nette. On s'entretue de moins en moins. Vous voyez, je découvre un papier écrit il y a 2 ans. Il y a 20 ans, on comptait 1600 meurtres par an. Aujourd'hui, on en dénombre 2 fois moins. Le taux d'homicide a baissé de 3 à 1,3 pour 100 000 habitants. Et la baisse des homicides est une tendance profonde que l'on peut même faire remonter à la fin du Moyen-Âge, selon le sociologue Nicolas Bourgoin. Donc, et c'est intéressant de rappeler parfois ce qu'on oublie.
Et par rapport à l'âge, est-ce que vous aviez à l'époque ces crimes on avait, parce que c'est ça aussi qui est intéressant, et c'est là où on est tous choqués. C'est, est-ce qu'à l'époque, ces crimes étaient commis par des bandes, on va dire âgées, ou est-ce que c'était...
Anna, ne m'en demandez pas trop.
Moi, c'est là, parce que c'est là, on est quand même à la sortie d'un collège, Pascal.
Mais vous avez... En fait, la vérité, c'est qu'on est d'autant plus choqués aujourd'hui que ça existe précisément moins, et qu'on ne l'admet plus, que notre société n'admet plus aujourd'hui qu'un enfant de 14 ans puisse être tué. Merci Maxime. À 13h09, on va marquer une première publicité. Je salue Boris Pirédou, aujourd'hui, qui est avec nous. La pub à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une collégienne de 14 ans tuée hier d'un coup de couteau dans le ventre. La scène s'est déroulée lors d'une rixe à Saint-Chéron dans l'Essonne, Guillaume Chiez.
Cela s'est passé vers 15h en pleine rue, non loin du collège du Pont-de-Bois où était scolarisée l'adolescente. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune fille aurait tenté de s'interposer dans une rixe entre bandes rivales. C'est à ce moment-là qu'elle aurait reçu un coup de couteau à l'abdomen. La collégienne a été rapidement hospitalisée en état d'urgence absolue. Elle est malheureusement décédée cette nuit.
6 mineurs sont en garde à vue. Y a-t-il de plus en plus de violence chez les moins de 18 ans? L'État est-il impuissant face à ces rixes entre bandes? Comment ces jeunes peuvent-ils en arriver là? À qui la faute? La guerre des bandes a toujours existé entre quartiers, soupir tiré sur la page Facebook de l'émission. Certains jeunes n'ont plus de limites. Il y a aujourd'hui une volonté délibérée de tuer. Il faut vite tout recadrer. Le service militaire pourrait être un début. José est assez désespéré de cette époque. Quand j'étais jeune, nous étions souvent dehors pour échanger, partager. Aujourd'hui, on sort pour casser, tuer. Oui, c'était mieux avant. Bernard s'interroge sur nos réseaux sociaux. Peut-on vraiment agir contre ces bandes rivales? Mettre plus de policiers, plus de moyens, j'en doute. Tout part de l'éducation. Et vous vous rendez compte, 14 ans tués d'un coup de couteau, s'énerve Francis. Non mais où est-on? La maison n'est plus tenue, que nos politiques se réveillent.
Effectivement, c'est une information dramatique. Fabrice est avec nous, il est policier. Bonjour.
Bonjour Pascal.
Vous habitez en Savoie et sur votre fiche que je découvre, il est écrit « Ça ne m'étonne pas ». Ça ne vous étonne pas qu'une enfant de 14 ans soit morte hier?
Alors dans un premier temps, bien sûr, j'adresse aussi toutes mes pensées à la famille et qui vient de perdre un enfant, leur enfant, dans des situations, une situation qui reste à déterminer et que les enquêteurs puissent réunir les éléments d'enquête et tout ça pour éventuellement punir les auteurs. Mais surpris, non. Parce que c'est un fait divers où aujourd'hui c'est un crime, c'est un meurtre. Et ceux qui sont blessés, qui prennent des coups de couteau, tout ça, ne sont pas forcément médiatisés. Ne sont pas toujours médiatisés. Là, il faut vraiment un drame poignant pour que on rouvre le débat et des facteurs multiples. C'est-à-dire l'ordonnance de 45 qui est relative à l'enfance délinquante. Éduquer.
Faut la rappeler punir. Peut-être l'ordonnance de 45 parce que je suis pas sûr que tous les auditeurs la connaissent.
Ouais, l'ordonnance de 45 du temps de Monsieur de Gaulle et tout ça. Bon, pour tout ce qui était mineur, les crimes d'élit, tout ça, ils n'étaient pas jugés en droit commun, mais plus sur le tribunal des enfants ou la cour d'assises des enfants. Et la volonté de cette ordonnance était d'éduquer, et plutôt que de punir. Sauf que je pense que la tendance est inversée. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il faut plus punir. Et continuer à éduquer, parce que l'éducation, Maxime l'a très bien dit, elle part des réseaux sociaux, manque de contrôle parental de la part des parents. N'importe qui peut avoir, moi mon gamin, Facebook, tout ça, non, il y a un contrôle parental. Vous avez les réseaux sociaux, malheureusement, beaucoup de jeunes se cachent, s'identifient, voilà, mais derrière un clavier, anonymement, ou voilà. Et pour l'ordonnance 45, bien sûr, Monsieur Toubon a essayé, Monsieur Sarkozy a voulu être ferme, a été modifié plus d'une centaine. Mais au jour d'aujourd'hui, elle doit revenir sur le tapis. Et ça, c'est au garde des Sceaux actuel de pouvoir se dire, voilà, l'ordonnance de 45, à un moment, où sont nos centres fermés ?
Il faut que, alors, les centres fermés, ça revient régulièrement, mais il faut que les mineurs soient inquiétés judiciairement, hein, c'est ça
bien
votre...
Bien sûr, un rappel à la loi,
oui. Pascal. Non, mais là, il n'y aura pas de rappel à la loi après...
les circonstances sont autres.
Bon,
sont autres.
Cette affaire de couteau, je disais tout à l'heure, vous êtes dans la rue aujourd'hui, avant, vous pouviez prendre un poing dans la figure. Aujourd'hui, les plus jeunes, pas que les plus jeunes, peut-être d'ailleurs, ont un couteau ou une arme sur eux. Est-ce que vous avez le sentiment, vous qui êtes policier, que depuis quelques années, la détention d'armes sur soi est quelque chose qui a augmenté ?
Bien sûr, le port d'armes prohibé, on parlait de statistiques tout à l'heure et je suis un peu plus sceptique, parce que dans le temps, c'était crime, délit, et voilà, maintenant, il y a beaucoup de catégories, homicide volontaire, involontaire, il y a tellement de catégories que les statistiques, ben voilà, on les réunit pas tous, quoi. Moi, je pense pas qu'elles aient baissé, au contraire, elles augmentent.
Et le port d'armes prohibé... Les homicides ont baissé, c'est une courbe, je le disais, depuis le Moyen-Âge, mais en revanche, oui. Après, il peut avoir des effets d'une année sur l'autre, ou... Il y a plus d'homicides sur quelques cas, mais globalement, la tendance est baissière depuis 5 siècles. C'était ça l'idée.
Non, mais le port d'armes chez les mineurs est vraiment... Mais quand je vous dis port d'armes, on parle de couteau, mais ça soit batte de baseball. C'est tout. Tout peut être une arme aussi bien par destination aussi. Mais le port d'armes, vous en avez des mineurs, voilà. Mais je vous dis, le fait de ne pas être inquiété, ils ne vont pas aller au tribunal pour ça. Le procureur va les libérer après.
D'abord, là, il faut attendre. Mais là, on est sur un cas qui est extrêmement rare. Je ne sais pas quand est-ce que, en France, le dernier homicide jugé d'un mineur... ça va être intéressant, d'ailleurs, de savoir la dernière fois que ça s'est produit. Heureusement, ce n'est pas si fréquent. Et oui, ça va être intéressant, effectivement, de savoir ce qu'un mineur encourt dans ces cas-là. Mais comme l'enquête est au commencement, si j'ose dire,
voilà.
On pourra peut-être avoir des précisions d'ailleurs avant 14h. C'est Guillaume Chiez, hein, je crois, qui est.
Tout à fait, parce qu'apparemment, excusez-moi, Pascal, mais j'ai entendu que c'était à proximité du collège, c'est pas dans l'enceinte du collège. Mais pourtant, des faits comme ça arrivent aussi dans les enceintes de collège.
Oui. Bah merci Fabrice, on est tous effectivement, surpris bien sûr, mais aussi très attristés d'accompagner cette information aujourd'hui. Et je vois que les témoignages se multiplient. Jeanne est là également, bonjour Jeanne.
Bonjour Pascal Pro.
Et merci d'être avec nous, vous êtes à Dijon, vous êtes gérante d'un supermarché. Donc vous êtes parfois confronté peut-être à des clients qui sont particulièrement turbulents et peut-être au-delà même.
Des jeunes, puisqu'on est encadré par deux gros lycées justement, nous. Donc on a beaucoup, beaucoup de jeunes qui viennent au magasin acheter leur sandwich et qui se parlent d'une façon où j'ai jamais connu ça. Je trouve qu'ils sont, même entre eux, ils se parlent mal, ils ont des gestes violents sans arrêt. Et je suis tellement attristée pour cette petite jeune fille qui a voulu s'interposer. Je pense tellement aux parents que je me dis qu'en arriver là, ça devient vraiment grave, quoi. On a une jeunesse qui aime la violence, qui, j'ai l'impression qu'ils sont sans arrêt en train de se pousser, de se parler, mais parfois il y a juste une heure où j'étais devant mon magasin parce qu'on est obligé de filtrer parce qu'on a vraiment beaucoup de monde le midi. Et parfois, je me dis que peut-être l'éducation est vraiment en cause, parce que j'ai entendu une maman qui a dit à son fils, tu ne rentres pas dans le magasin. Et le fils est rentré, un gamin de 9 ans, et lui a dit, dégage, dégage, tu vas payer cher. Comment vous voulez que nos enfants aient aussi des bases si on leur parle comme ça ? Enfin, je crois qu'il y a un moment donné...
Qui a dit, dégage, dégage, tu vas payer cher ? C'est la mère qui a parlé à son fils comme ça ?
Oui, je vous jure, quand je suis allée voir mon mari en lui disant ça, je lui dis, mais...
Effectivement, c'est pas une manière d'élever ça.
Non, comment on peut avoir des bases ? Et je crois que les enfants n'ont plus de bases, n'ont plus d'éducation.
Ça dépend qui, c'est toujours pareil, mais là où vous avez raison, c'est qu'on... La difficulté, c'est de généraliser ces sujets-là et de se fier à ses propres observations. Mais là où vous avez raison, j'ai le sentiment, comme vous, que la manière dont se parlent les plus jeunes est tout à fait étonnante. Et il me semble que quand j'avais 14 ans ou 15 ans, on n'était pas toujours ou tout le temps dans ce rapport-là avec des propos qui sont souvent orduriers, violents, etc. Il y a une sorte de banalisation des propos que je ne citerai pas évidemment à l'antenne et qui parfois étonnent, qui même parfois sont dits affectueusement, j'ai envie de dire.
C'est ça. Ils s'appellent, d'abord, ils n'ont plus de prénom, les enfants. Ils s'appellent tous gros. Et je vois pas pourquoi, mais je vous jure, je ne vois pas pourquoi on donne des prénoms à nos enfants. C'est tous gros.
Ça, c'est drôle. Ce que vous dites est drôle. Dans une actualité si dramatique, ça, c'est drôle.
Désolée, mais oui. Mais c'est impressionnant. Je veux dire, ils n'ont plus un langage où ils disent ben, « Salut, comment tu vas ? T'as passé une bonne journée ?» On n'entend plus ces choses-là. Ce sont des choses qui même dans leur parler, ils sont. Je trouve qu'il y a de la violence et mon Dieu que c'est. Enfin, moi, ça me terrifie de voir des choses pareilles.
Bon, vous êtes jeune en plus, Jeanne. Vous avez des enfants ?
Je suis jeune. J'ai 48 ans. Oui, bah, j'ai deux enfants.
De gros enfants, vous en êtes dire ?
Non. J'ai un enfant de 25 ans et un jeune qui va avoir 19 ans.
J'en D'accord. Ai deux, et vous avez le sentiment que eux, ils s'expriment plutôt convenablement ?
Écoutez, j'ai jamais eu de soucis avec eux. On essayait d'abord d'être très communicatifs entre nous quatre. On est une famille.
Non, mais parce que voilà, vous étiez. Enfin, on en arrive toujours à la même chose. C'est d'abord souvent des drames sociaux. C'est-à-dire que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui n'ont pas la structure familiale dans laquelle a évolué vos enfants, Jeanne. Et dans cette rixe-là, si vous faites le décompte de tous ceux qui ont participé à cette rixe, très certainement, vous rencontrerez des jeunes en situation de difficile sur le plan social, avec des parents qui, effectivement, pour plein de raisons, sont assez peu présents autour d'eux, sans doute.
Oui, il y a sans doute dans l'éducation, certainement, sans doute que c'est aussi ça. Et sincèrement, je pense vraiment aux parents qui perdent un enfant de 14 ans et je sais trop ce que c'est. Donc c'est compliqué, je pense que, franchement, d'en arriver là, c'est... J'ai vraiment beaucoup de peine pour ces gens. Sincèrement, pour voir tous les jours, je dis, des jeunes qui sont plutôt dans un état d'esprit de violence, je me demande où on va aller. Ou alors il faut vite que les parents se reprennent en main. Je sais que c'est pas toujours facile d'élever des enfants. On fait pas ce qu'on veut, on fait ce qu'on peut, certainement. Mais bon sang, bonsoir, essayez de communiquer avec vos enfants, essayez de parler, essayez de leur expliquer que le monde n'est pas toujours beau et qu'il faut faire attention à plein de choses sans non plus leur faire peur. Mais cette jeune fille qui a voulu s'interposer, elle a certainement voulu bien faire, mais elle en est morte. Et ça, c'est gravissime, quoi.
Eh bien, merci, on va marquer une nouvelle pause, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Une collégienne de 14 ans, vous le savez sans doute, tuée hier d'un coup de couteau dans le ventre. La scène s'est déroulée lors d'une rixe à Saint-Chéron, dans l'Essonne, entre deux bandes rivales. L'adolescente se serait interposée entre des jeunes de Dourdan et Saint-Chéron. 6 mineurs sont en garde à vue. Et la question que l'on pose, c'est est-ce qu'il y a de plus en plus de violence dans cette société, et notamment chez les moins de 18 ans? On est avec Martial. Bonjour Martial.
Bonjour Pascal.
Vous habitez Lyon. Que vous inspire...
Non, Dijon.
Dijon. Eh bien, écoutez...
Beaucoup de Dijonais aujourd'hui.
Oui, parce que c'était marqué Lyon, mais ce n'est pas grave. Martial, que vous inspire ce qui s'est passé à Saint-Chéron hier?
Alors, tout d'abord, présenter mes condoléances à la famille de cette jeune femme, jeune fille qui de 14 ans. Enfin, je suis attristé d'apprendre encore une fois que par le biais de violence, on en arrive à des décès. Et ça me rappelle un petit peu, je ne sais si vous vous souvenez, de la vidéo qu'on avait vue, où un enfant s'était fait aussi tabasser, le terme est là, par une meute de jeunes
à Beaugrenel, gens, sur la dalle de Beaugrenel, il y a quelques semaines. Et d'ailleurs, c'est le garçon qui s'appelle Yuri. La difficulté, d'ailleurs, qui est terrible dans ces sujets, c'est qu'on en parle pendant un jour, deux jours, trois jours, quatre jours. Par exemple, Yuri, je ne sais pas ce qu'il devient. Je ne sais pas s'il est sorti de Necker. J'ai vu sa maman témoigner. Je ne sais pas où il en est. Il était dans le coma, etc. Et puis tout d'un coup, on arrête d'en parler. C'est dommage, d'ailleurs.
C'est dommage. C'est un phénomène de scoop, etc. En fait, c'est le focus sur notre société. Et ce qui est bien dommage aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de coercition, de mesures coercitives à l'encontre de ces jeunes gens. Enfin, aujourd'hui, ils veulent en découdre, mais quel que soit l'âge des gens auxquels ils sont confrontés, que ce soit des adultes ou entre eux, enfin, c'est une manière d'être aujourd'hui qui est complètement banalisée. Peut-être serait-il temps d'interpeller le gouvernement sur une manière de procéder depuis déjà l'éducation. À l'école, il doit y avoir des signes, faire intervenir l'éducation, enfin, l'éducation civique.
Vous êtes marrant, c'est pas aux profs d'éduquer les enfants. C'est, déjà, non, ils ont tellement de choses à faire.
Je suis d'accord avec vous.
Ils sont là pour enseigner, alors ils peuvent effectivement, à la marge, être accompagnés, de donner des conseils moraux, civiques, mais c'est évidemment pas leur job. Vous pouvez pas demander aux profs de régler les problèmes qu'à la maison, les problèmes... Que la maison n'a pas réglé.
Je ne demande pas aux profs de faire ce genre d'action. Peut-être de mettre des warnings en convoquant les parents quant à l'attitude.
Désespérés, les profs, au bout d'un moment. Ils doivent en avoir plein ras-le-bol. Ils doivent dire ça sert à rien. Et ils doivent être la première année, ils doivent le faire. Et puis après, ça doit être tellement infernal avec ce type d'individu que ça doit être compliqué.
J'entends ce que vous dites et j'ai l'impression que tout le monde a le même raisonnement, c'est-à-dire on laisse courir. C'est plus possible. Jusqu'où allons-nous laisser courir? Qu'est-ce qu'on veut de notre société pour demain? Comment voulez-vous faire si tous autant que nous sommes, nous disons « bon d'accord, c'est banalisé enfin, ». Le vocabulaire maintenant est banalisé, il se parle mal, il s'interprète mal. Enfin, comment voulez-vous qu'on fasse? On est dans une société qui est de plus en plus violente, mais à tous les niveaux. Donc, comment
mais elle ne l'est pas, c'est ça que je dis tout à l'heure, c'est ça qui est paradoxal, elle n'est statistiquement pas.
Eh bien, ce n'est pas ce qu'on rencontre au quotidien, donc j'aimerais savoir comment sont faites ces statistiques.
Ben, en tout cas, Martial, les statistiques, je vous ai dit, les statistiques, les homicides baissent.
Oui, et regardez, tous les jours, il n'y a pas une page dans un journal qui nous interpelle sur un phénomène de violence.
Alors c'est la petite délinquance, peut-être les petites agressions, faudrait avoir des statistiques précises là-dessus, il est possible qu'elles soient en augmentation, les insultes dans la rue, que sais-je. Mais sur les homicides, la seule stat que j'avais tout à l'heure, c'est que ça pouvait baisser. Mais peut-être que les vols, la petite délinquance, etc., est-elle en augmentation.
Et comment se fait-il que des jeunes gens aujourd'hui disposent d'armes blanches?
Alors ça, c'est une question que j'ai posée et que c'est évidemment et à laquelle on n'a pas la réponse.
Comment peut-il avoir accès à des armes blanches?
C'est une bonne question, effectivement. Alors, on imagine comment ils ont accès, d'ailleurs. C'est un couteau. Tu peux avoir un couteau assez facilement. C'est pas un revolver. Et c'est ce couteau qui a tué cette jeune fille de 14 ans. Une pub, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Laurent Tessier. Les agressions contre la police nationale ont plus que doublé en 20 ans. Plus de 85 faits de violence à personne dépositaire de l'autorité publique sont enregistrés quotidiennement en France. Les policiers sont-ils en danger? Oui, pour tirer sur la page Facebook de l'émission. Seul face à la délinquance, l'agressivité, sans aucun soutien. Le problème n'est pas nouveau, rajoute Gabriel. Mon fils veut devenir policier, c'est triste à dire, mais je ne suis pas rassuré. Nous attendons vos réactions sur ce sujet au standard. Après les communes du littoral des Alpes-Maritimes, qui sera confiné les week-ends? Faut-il élargir cette mesure à d'autres départements? À Dunkerque, le Premier ministre Jean Castex veut des mesures supplémentaires de freinage de l'épidémie. Qu'attendent les habitants rencontrés par Samuel Duhamel pour RTL?
Je pense que c'est inévitable qu'on fasse quelque chose. Bon, voilà, c'est trop important. Ils ont commencé par Nice, bon, ils ont intérêt maintenant à venir à Dunkerque, ils se rendent bien compte que c'est important, quoi.
C'est le préfet qui bouge pas, parce que le maire, il fait tout pour, mais le préfet ne bouge pas. Alors j'espère qu'il va mettre la gomme.
Le confinement local le week-end est une bonne mesure, écrit David sur nos réseaux sociaux, plutôt qu'un confinement total. Incompréhension pour Yves, la Covid-19 ne serait donc dangereuse que les week-ends. De qui se moque-t-on franchement? Qu'en pensez-vous? 32-10. La polémique autour du menu unique sans viande dans les cantines scolaires à Lyon continue. La ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, avait regretté un débat préhistorique. Y a-t-il une cacophonie au sein du gouvernement? Le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, était l'invité de RTL ce matin avec Benjamin Sportouche.
Je vais vous rassurer, il n'y a pas de cacophonie au sein du gouvernement. D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant d'arrêter de servir de la viande dans toutes les cantines
Pompili.
De la République.
Non, mais c'est pas d'un ce que dit Barbara
Pompili. Je vais y venir. D'un point de vue social, c'est une honte. Parce que c'est toujours une écologie de l'entre-soi où à chaque fois, ce sont ceux qui sont les plus fragiles, qui n'ont pas forcément accès à des repas équilibrés, qui sont pénalisés par de telles décisions.
Qu'en pensez-vous ? Vous pourrez continuer de réagir sur cette histoire au 3210 3210.
On va être avec un policier dans une seconde, c'est Marc. Mais lorsqu'on dit la société est de plus en plus violente, pour l'année 2019-2020, je pense que les statistiques ne sont pas encore sorties. Les statistiques de la délinquance fournies par la police et la gendarmerie font apparaître une hausse significative des violences sexuelles, plus 12%, des coups et blessures, plus 8%, et des homicides. Il y avait plus 76 décès en 2019 par rapport à 2018. Et je vous disais que globalement, la courbe des homicides baisse depuis... plusieurs siècles en France. Alors, d'une année sur l'autre, il peut avoir des variations, bien évidemment. Mais c'était une tendance. Alors, Marc, qui est policier, qui va nous parler des bandes. Mais je rappelle que aujourd'hui, on a appris qu'en 20 ans, par exemple, les agressions contre les forces de l'ordre ont plus que doublé, avec chaque jour plus de 85 faits de violence recensés. On est passé de quelques 13 000 agressions en 2000 à plus de 27 000 l'an dernier. Ça, c'est contre les policiers. C'est pas exactement notre sujet du jour, mais comme vous êtes policier, on pouvait le dire. Vous habitez dans l'Essonne, Marc ?
Oui, tout à fait. Oui.
Donc vous êtes peut-être près de Saint-Chéron, parce que Saint-Chéron est une petite ville, un petit village d'ailleurs, de l'Essonne.
Oui, c'est un petit village en fait, mais le souci qu'il y a dans des départements comme l'Essonne, donc, que je connais très très bien, c'est que les phénomènes de bande ont toujours existé, même si elles sont moins importantes que dans les années 90 ou 2000, où il y avait réellement des grosses bandes qui se battaient et tout. Mais c'est un sentiment d'appartenance à un quartier. Moi, lorsque j'ai des jeunes en garde à vue devant moi, puisque moi je travaille en tant que policier, donc en fait il m'arrive assez souvent, malheureusement, d'avoir des jeunes en garde à vue, lorsqu'on leur demande où ils habitent, ils donnent pas une ville, ils donnent un quartier. Ils ont l'appartenance du quartier. Pour eux, c'est beaucoup plus important. Lorsque vous avez quelqu'un de Grigny, par exemple, il va vous dire qu'il habite la Grande Borne, il n'habite pas Grigny. Pour lui, en fait, il y a une appartenance de quartier. Ce qui s'est passé à Saint-Chéron, là, outre le drame affreux de voir une jeune fille prendre un coup de couteau, en plus, il semblerait que ce soit un coup de couteau perdu, mais ça, l'enquête le démontrera, donc je ne vais pas trop en parler. Il y a certainement eu, avant, un départ entre deux bandes qui sont là, celle de Saint-Chéron, celle de Dourdan. Ça peut partir d'une remarque sur un WhatsApp, sur Internet, un mauvais regard au McDo du coin, un geste de provocation à un arrêt de bus, on reconnaît quelqu'un, c'est la bande de ci, c'est la bande de là, on se réunit et puis là on se dit on va faire payer ce qui s'est passé parce que c'est inacceptable. C'est-à-dire qu'en fait il y a de plus en plus de quartiers, de plus en plus de bandes, avec de plus en plus de jeunes. C'est-à-dire qu'avant, les bandes, elles étaient entre 20 et 22 ans, 23 ans. Maintenant, c'est des mômes de 13 à 17 ans. Et eux, par contre, ils ont une violence qui est totalement exacerbée, totalement désinhibée. Pour eux, en fait, donner un coup de couteau ou donner un coup de batte de baseball dans la tête à quelqu'un ou lui écraser un parpaing sur la tête, c'est pas un problème pour eux. C'est pas un problème pour eux. Ils ont une autre occurrence de la vie par rapport à ça. Ils ont tellement été baignés dans la violence par rapport à leurs jeux vidéo. Ils voient tellement de films où tout le monde se tire dessus, on voit des têtes exploser, des choses comme ça, que pour eux, en fait, c'est une partie de la vie. Ça fait partie d'eux. En fait, il y a aucun souci pour eux. Quand vous les entendez et puis que vous leur dites parfois, bon, écoute. Jeune homme, faut parler poliment et tout ça. Ces jeunes-là, en fait, vous regardent, ils nous parlent, ils nous insultent, ils nous toisent et puis ils nous disent si t'es pas content, je t'attends à la sortie. Enfin, c'est parfois totalement hallucinant. Et je vous parle d'enfants qui ont 13, 14 ans et qui sont pas spécialement plus grands que la moyenne ou costauds ou quoi que ce soit. Mais en fait, ils ont une telle appartenance à un quartier. Ils sont sûrs de la force du quartier derrière eux. En fait, voilà, ils sont pas seuls. Ils ne sont pas seuls. Voilà.
Je vous ai pas interrompu, hein, Marc, parce que c'est glaçant, édifiant, passionnant. Ce que vous dites. Garçon ou fille ?
Alors, il y avait une certaine époque, on va les traiter de machos, mais il y avait que des bandes de garçons. Ensuite, il y a eu dans les années 2000 quelques bandes composées essentiellement de filles qui étaient d'une violence ahurissante et extrême. Et maintenant, ça se mélange un tout petit peu. Et parfois, il y a des garçons qui sont au service de filles, qui sont chefs de bande et qui sont d'une violence, elle aussi, incroyable.
Le profil social de ces jeunes gens ?
Alors, ça a beaucoup changé. Avant, il y avait beaucoup de gens, donc plutôt des milieux ouvriers, voire défavorisés, avec des parents un peu déstructurés qui laissaient un peu leurs enfants à l'abandon. Nous, on le sentait parce que quand on appelait en fait les parents pour venir les chercher, la réponse qu'on avait souvent, c'était gardez-le, foutez-le en prison, ou alors laissez-le passer la nuit en garde à vue, ça lui fera du bien, ou moi j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire. Donc on avait ça. Et de plus en plus maintenant, on a alors avec tous les guillemets qu'il faut, hein, bien entendu. On a beaucoup d'enfants de bonnes familles qui au départ, pour avoir un sentiment d'appartenance avec quelqu'un, se mettent dans un groupe. Et de fil en aiguille, ce groupe devient une bande. Et petit à petit, on sent monter. Alors au départ, c'est des incivilités. On va commencer... Tout ceci est exhaustif, hein, mais on va commencer par faire le coup de la sonnette chez les gens, on va jeter des choses dans les jardins des gens et tout, et puis petit à petit, on va voler du courrier, on va casser quelque chose, on va partir, et puis à un moment donné, on va voler, on va agresser, on va insulter, on va se sentir de plus en plus fort. En fait, c'est un entraînement, c'est des meutes. C'est le sentiment d'une meute. Il suffit qu'il y ait un chef qui soit un peu plus charismatique que les autres, garçon ou fille, peu importe. Et en tout cas, après, c'est ce sentiment-là qui est le plus important. Le plus important, c'est d'appartenir à un groupe.
Marc, vous êtes sur le terrain depuis combien de temps ? Vous êtes policier, je le rappelle. Vous êtes policier sur le terrain depuis combien de temps ?
Depuis plus de 30 ans.
Vous gardez le moral ?
Il y a des moments où effectivement on se demande pourquoi on y va le matin, pourquoi on continue à faire des heures sup, pourquoi on compte pas les jours, pourquoi je continue à louper des anniversaires, des mariages ou des choses comme ça. Mais quelque part, je me dis que si nous on le fait pas, qui le fera ?
Restez avec nous, Marc. On va marquer une pause. Mais vraiment, témoignage. Tout à fait exceptionnel, hein, vraiment de Marc, un témoignage du terrain qui rapporte, j'ai envie de dire comme un journaliste, mais on n'a pas, nous, cette réalité. C'est pour ça que le témoignage de Marc, il est fort, puisque nous ne sommes pas confrontés au quotidien à celui de Marc. Merci, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
On est avec Marc, qui est policier dans l'Essonne et qui connaît bien ce système de bande, mais qui connaît bien également la violence des plus jeunes et qui rapporte les témoignages de ce qu'il vit. Alors, ce qui est tout à fait glaçant dans ce que vous racontez, c'est la jeunesse, d'abord, hein, des gens qui sont en face de vous. C'est l'absence totale de repères. Lorsque vous dites ils vous toisent, ces plus jeunes dans votre commissariat, ils se moquent de votre autorité. L'hyperviolence également, parfois, de jeunes gens qui ne se rendent pas compte, au fond, de ce qu'ils font, parce que jeux vidéo, parce que film, parce que habitude de la violence. Et puis, vous introduisez quelque chose de nouveau aussi, c'est que ça peut être des gosses de bourgeois ou des gosses de bonne famille, alors qu'on imaginait souvent que cette violence, cette délinquance, soit liée à des milieux difficiles socialement. Marc.
Oui, mais c'est une voilà, c'est une tendance. Après c'est pas des généralités non plus. Moi je vois ça par rapport au prisme de mon travail qui regarde un petit peu tout ça, mais c'est des choses qu'on a vu évoluer malheureusement avec le temps et la violence des mineurs en est une évidence quoi. S'il y a quelque chose qui a réellement changé en fait par rapport à ça, c'est le fait que voilà, les mineurs dans leur ensemble sont totalement désinhibés par rapport à la
violence. Oui, désinhibés, je retiens ce mot. Je le retiens ce mot parce qu'il est très fort. Merci Marc de votre témoignage. Vous avez été peut-être un peu plus long qu'un auditeur classique. Et alors je ne vous ai pas du tout interrompu parce que je trouve ça tellement, tellement extraordinaire ce que vous racontez et en même temps tellement, j'allais dire, prévisible. Ouais. C'est à la fois extraordinaire et prévisible dans la société dans laquelle on est. C'est ça qui est peut-être paradoxal.
Vous savez, Monsieur Pro, c'est juste le reflet d'une carrière de policier. Ça aurait pu être un gendarme à ma place, il vous aurait dit à peu près...
Oui, mais vous en parlez précisément, et c'est ça qui est... vraiment, j'ai envie de dire, vous en parlez avec une très grande acuité. Donc ça donne à votre témoignage, en plus avec des exemples, quelque chose de très concret, et c'est pour ça qu'on était, je pense, suspendu à ce que vous disiez. Merci beaucoup, Marc. Merci. Yvan est là. Yvan, sur ce même sujet, parce qu'évidemment, beaucoup d'appels. Après, on parlera d'autres choses. Il y a 210 millions ce soir à gagner. Jamais en France, on a gagné 210 millions. Alors, je vois que Laurent Tessier, c'est un sujet qui lui plaît, l'euro million. Il a pourtant gagné les 200 millions il y a 3 semaines et il veut encore regagner les 210 cette fois-ci. Il est terrible. Bon, Yvan est là, donc carrossier, qui habite Cambrai, qui a dû écouter Marc, comme moi, et qui était suspendu, j'imagine, à ce que nous apprenions, en tout cas, ce qu'on devine parfois, il y avait la concrétisation avec Marc.
Oui, bonjour Pascal.
Bonjour Yvan.
Content de vous avoir au téléphone. Déjà, une pensée pour la jeune fille et surtout pour sa famille, pour cette tristesse qui ne devrait pas lieu d'avoir. Ensuite, je voudrais revenir sur Marc qui était juste avant. Sur le policier. Donc je présente un peu par rapport à Marc, s'il écoute. C'est que moi, j'étais de l'autre côté de la barrière il y a 25 ans. Et ce que Marc, il vous a relaté, c'est vraiment un policier de terrain parce que c'est vraiment la réalité. Voilà. Moi, j'étais confronté à des gens comme Marc, parce que lui était policier. Moi, j'étais dans les quartiers. Et ce qu'il vous relate, c'est exactement ça.
Mais qu'est-ce qui a fait, alors, pour vous, que les choses ont changé ?
Ce qui a fait, c'est la politique de l'autruche, je pense. Je ne parle pas de la police, des policiers en eux-mêmes, mais des ordres qu'on leur donne. C'est la politique de l'autruche.
Non, mais pardonnez-moi, avant de parler de ce qu'il faudra changer, pour vous, qu'est-ce qui a fait que de jeunes mineurs turbulents ou délinquants que vous étiez, qu'est-ce qui a fait que vous êtes entré dans le rang ?
Ah, ce qui a fait que je suis rentré dans le rang, c'est pour marcher tranquillement dans un quartier, il faut être bien vu. Donc automatiquement, il faut suivre les règles qui sont données par ceux qui tiennent déjà le quartier au départ.
Oui, mais vous avez quitté manifestement ce monde-là pour bosser, etc. Donc qu'est-ce qui a fait que vous avez normalisé votre comportement ?
Des mains qui ont été tendues, des bonnes mains. Malheureusement, il n'y en a pas assez dans les quartiers, des mains qui sont tendues à des jeunes, qui sont susceptibles de s'en sortir et d'éviter les catastrophes. Parce que bien souvent...
Mais qui vous a tendu la main, par exemple ?
Dans la difficulté où j'étais, c'était mes voisins de palier. C'était des jeunes qui avaient à l'époque 15 ans de plus que moi. Donc moi, j'avais 15 ans, ils avaient à peine une trentaine. Et qu'ils faisaient tout pour m'attirer chez eux et m'occuper à partir avec eux en voiture, à découvrir d'autres passions, d'autres choses plus intéressantes que la vie de quartier. Et puis quand j'ai réalisé, j'ai appelé mon père qui lui, mes parents étaient divorcés, qui lui était dans le Nord. Et je lui ai pas dit les faits, je lui ai dit simplement « Papa, est-ce que je peux revenir ? Sinon la prochaine fois, tu viendras me voir avec des oranges. »
Et est-ce que vous diriez que votre parcours était lié aussi à un milieu social qui était peut-être difficile ? Vous venez de dire que vos parents étaient séparés. Est-ce que...
Ah oui, ça contribue, parce qu'automatiquement, on n'a plus de repères. Et le seul repère, après, c'est des gens qui vous font croire que vous êtes quelqu'un. Et puis quand vous croyez que vous êtes quelqu'un, eh ben, vous essayez de le montrer de plus en plus. Mais ce qu'il y a, c'est que maintenant, avec l'évolution, moi je vous parle de ça en 95, mais maintenant, tout ça, on a laissé faire. Et quand on a laissé faire, on a... Je veux dire, on a le sentiment que c'est de la normalité et on monte des échelons. Avant, on avait, comme vous parliez d'un couteau, est-ce que c'est normal ? Bah, ça a toujours existé. Je vais vous relater un vieux film, c'est La guerre des boutons. La guerre rivale avec un couteau pour couper des boutons.
Mais vous, vous aviez un couteau, par exemple, quand vous étiez dans des bandes ?
Oui.
Mais vous ne vous en êtes jamais servi ?
Non. Et puis quand je suis revenu dans le Nord chez mon père, j'avais gardé toujours ce sentiment-là d'avoir mon couteau sur moi et je me suis fait arrêter par les douanes. Ils ont fouillé mon véhicule et ils sont tombés sur mes armes et me les ont supprimées.
Vos armes ? Ben vous allez nous en parler tout de suite après la pub. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et Laurent Tessier, ça réagit au standard ?
Faut-il autoriser les boulangeries à ouvrir 7 jours sur 7 ? Sujet qui vous fait réagir sur la page Facebook de l'émission. La loi impose un jour de repos hebdomadaire. Hier, la justice a obligé un boulanger de Nanterre en région parisienne, Romaric, c'est son prénom, à respecter 7 journées de fermeture par semaine.
Bah, je trouve ça injuste qu'on laisse la liberté aux gens qui ont envie de travailler, de travailler. Il y a une forme de concurrence déloyale entre le boulanger artisan qui est obligé de suivre s'est arrêté et justement les Carrefour City, les Superettes les stations-service qui ne seront pas contrôlés comme nous.
Laissons les boulangers travailler, demande Axel sur nos réseaux sociaux. Si tout le monde est d'accord, propriétaires, salariés, rajoute Eric, il faut leur donner cette liberté. Mais pensez à la vie de famille, répond Sandra. Nous attendons vos avis au standard dès maintenant. Et puis, rêvons un peu.
Oh, et si j'étais riche,
mais vous avez gagné déjà 200 millions l'autre jour.
Comment le savez-vous ?
Mais oui, pourquoi voulez-vous regagner, laisser les autres ?
On est gourmand, c'est comme ça. 210 millions d'euros sont en jeu aujourd'hui à l'Euromillion, méga jackpot. Que feriez-vous avec une telle somme d'argent ? Un changement de vie, sans aucun doute. Pour faire quoi ? Bah, dites-le nous, au 3210.
Exactement. Alors, cette collégienne de 14 ans, tuée hier d'un coup de couteau dans le ventre, c'est un sujet dont on parle depuis tout à l'heure. Et parfois, nous faisons des pas de côté. C'est le cas avec Yvan, puisque Yvan, lui-même, a eu une jeunesse, je veux dire, turbulente, Yvan. Et puis vous êtes rentré dans le rang, puisqu'aujourd'hui vous êtes carrossier. Mais la psychologie, le profil du jeune que vous étiez nous intéresse, forcément. Je retiens de ce que vous nous avez dit, on m'a tendu la main. Et si on ne vous avait pas tendu la main, aujourd'hui, ce serait peut-être différent.
Bah, tout à fait. Tout à fait, ça aurait été différent, j'aurais peut-être pas la vie que j'ai là, que j'adore, même que j'ai 3 enfants, et c'est pour ça que ça me touche aussi, parce que à l'époque j'avais 15 ans, on n'a pas le même reflet, maintenant je suis père de famille, je dis ça serait ma fille à la place de cette jeune fille, voilà, et je dis heureusement j'ai choisi ce chemin-là, mais ce qu'il y a c'est qu'il faut des mains tendues, parce que là c'est un fait, on va dire pas divers, c'est pas normal. Mais il y en a multitude de faits comme ça qui vont pas jusqu'à l'homicide, mais jusqu'au coma, à la limite de l'homicide. Et c'est quotidien, sauf qu'on n'en parle pas forcément dans les gros médias, mais dans les petits médias. Moi, ça existait déjà. Ça parlait pas dans Le Parisien, mais ça parlait dans Le Courrier Picard. Voilà. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on fait toujours un constat. On constate ceci, on constate cela, mais on fait rien pour améliorer le constat.
Bah pourtant, on tente de faire des choses. Hein.
Pense qu'il serait favorable, parce que je vous parle encore de tendre la main, je pense que ce qui serait favorable, c'est d'avoir un œil plus sur tout ce qui est les éducateurs de quartier, qu'ils ont un dialogue plus facile avec les jeunes qu'un policier. Ça, c'est, ils vont comprendre leur langage et ils vont savoir leur parler avec leur langage pour éviter... d'être un semblant de quelqu'un ou de faire de la délinquance régulière. Et déjà, quand on aura enlevé ça, on aura déjà enlevé un bon tiers de délinquance.
Mais merci Yvan, merci de cette solution que vous imaginez. Il est 13h56.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur
RTL. Les cantines à Lyon, on a 2 petites minutes avant le 14h d'Hortense Crépin. Nous sommes avec Charles. Bonjour Charles. Alors, on en a parlé fin de semaine dernière, on en a parlé encore hier. Je rappelle qu'il y a un menu sans viande à Lyon, imposé par le maire de Lyon, Monsieur Doucet, pour des raisons de fluidité dans le service, nous dit-il. Menu unique, ça va plus vite, problème du menu unique, c'est qu'il a choisi un menu sans viande.
Bah, écoutez, moi, je voudrais vous dire que je suis dégoûté. Dégoûté parce que je suis lyonnais et que Lyon est la capitale mondiale de la gastronomie, que, tout comme la France est un symbole mondial. Donc, ne pas laisser la liberté des menus, c'est quelque chose qui me choque, mais dans un sens ou dans l'autre. En revanche, évidemment, le sens où on interdit la viande me choque deux fois plus parce que le monde de l'élevage bovin est en crise, mais en crise énorme. Je ne sais pas si vous êtes au courant, Pascal, mais on négocie le kilo de viande en francs chez les éleveurs. Dans les ventes au cadran, comme ça se fait beaucoup dans les régions d'élevage, et à l'oral encore, ça existe, on négocie la viande à 20 francs ou 18 francs le kilo, c'est-à-dire moins de 3 euros.
Je ne savais pas qu'on négociait la viande en France.
Hein, on la négocie en francs.
Mais pourquoi on la négocie en francs alors que ça fait 20 ans qu'on est passé à l'euro?
L'usage.
C'est la première fois que j'entends ça, mais je vous fais croire.
Oui, on aurait pu le vérifier s'il y avait le salon de l'agriculture, vous seriez allé interroger.
Je vous fais confiance.
Je peux vous assurer que c'est vrai. Et notamment dans une appellation qui est toute proche de nous, qui est le Charolais, qui est une des plus belles viandes de bovines.
Et on le fait en franc. Charles, je vous coupe parce qu'il est 58, mais on va continuer la conversation tout de suite après le flash, c'est promis, de Hortense.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
À la seconde près, il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin et bien évidemment on continuera avec Charles à parler de la cantine et du menu sans viande à Lyon. Hortense.
Une enquête ouverte après la mort d'une jeune fille de 14 ans hier lors d'une rixe entre deux bandes rivales à Saint-Chéron dans l'Essonne. Elle a reçu un coup de couteau dans le ventre. Elle se serait interposée entre des jeunes de Dourdan et Saint-Chéron dans l'après-midi avant d'être blessée. 6 personnes sont en garde à vue. Ces affaires de bandes rivales gangrènent l'Essonne et placent les mineurs en première ligne d'après la procureure de la République. Une dernière chance avant le reconfinement, c'est ce que réclame le maire de Dunkerque au gouvernement alors que l'agglomération voit ses cas de contamination se multiplier. Il propose une immense campagne de prévention pour imposer le zéro rassemblement. Olivier Véran, le ministre de la Santé, doit trancher la question d'ici mercredi où il se rendra dans la commune. Les protections périodiques vont être gratuites à la rentrée pour tous les étudiants, annonce de la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Les résidences universitaires des Crous et les services de santé universitaires vont être équipés de distributeurs de protections hygiéniques. Objectif 1500 distributeurs et la gratuité à la rentrée. En France, 1,7 million de femmes seraient concernées par la précarité menstruelle. Pas de salon de l'agriculture cette année, mais Emmanuel Macron se rend bien dans une ferme. Aujourd'hui, le président est près de Dijon pour échanger avec les acteurs du monde agricole. À ses côtés, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, invité ce matin sur RTL, il est revenu sur la polémique concernant le menu unique sans viande dans les cantines lyonnaises. Une honte, selon lui. Et alors que sa collègue, la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, a regretté hier un débat préhistorique. Il indique qu'il n'y a pas de cacophonie au gouvernement concernant ce sujet. En football, la suite des huitièmes de finale de Ligue des Champions. L'Atlético reçoit Chelsea à 21h. Autre rencontre ce soir à Rome entre la Lazio et Chelsea et l'Atlético reçoit le Bayern de Munich. C'est temps pour moi. La météo cet après-midi avec de la douceur sur l'ensemble du pays.
C'est compliqué le foot parfois.
C'est une faute de frappe.
Mais non, mais le football, c'est Chelsea, Atlético Madrid, tout ça, c'est complexe.
La météo cet après-midi avec de la douceur sur l'ensemble du pays et des précipitations moins abondantes sur le Languedoc-Roussillon. Les températures cet après-midi, 16 degrés à Lille, 15 à Amiens, 12 à Brest, 17 à Toulouse et Strasbourg. Le quintet, c'était à Vincennes, l'arrivée provisoire, 12, 14, 11, 8 et 4.
Merci Hortense.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Praud.
On revient donc au cantine à Lyon et on est avec Charles qui habite précisément Lyon et qui est vent debout sur cette décision. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est la réaction de Madame Pompili, d'ailleurs, qui n'est pas la même que celle du ministre de l'Agriculture, Monsieur de Normandie. Mais elle dit, c'est un débat préhistorique. C'est ça qui me frappe toujours. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord parfois avec nos amis écologistes, j'allais dire, ils disqualifient l'adversaire en disant c'est un débat préhistorique. Non, c'est pas préhistorique. Charles.
C'est un débat moderne, mais c'est un débat moderne.
Oui, non, c'est amusant cette manière toujours de parler de radicalité. T'as l'impression que certains sont dans le bon camp, le camp du bien, et qu'on n'a pas le droit de, d'échanger sur ces sujets. C'est un débat préhistorique que parler de la viande. Non.
Mais en plus, en déclenchant ce sujet, la mairie de Lyon a voulu faire le buzz. Bah, ma foi, c'est réussi.
Ça, je ne suis pas sûr, en revanche. C'est une contre... Ça, je ne suis pas sûr. Peut-être que vous avez raison, mais je ne suis pas sûr, parce que c'est contre-productif.
En tout cas, ça marche bien. Si ce n'est pas le cas, ça...
Bah
ça
oui, mais est-ce, que c'est, voilà. Est-ce qu'ils l'ont voulu ?
Écoutez, moi, je crois toujours... J'accuse toujours un petit peu les élus de vouloir faire de la communication politique. Donc, moi, j'y crois.
Je regrette beaucoup que sur ce sujet, on retombe dans un débat préhistorique, Barbara Popelli. Je regrette beaucoup ces clichés éculés du type l'alimentation végétarienne serait une alimentation déséquilibrée. Alors qu'on sait que la viande peut être remplacée par du poisson, des œufs, des légumineuses qui apportent toutes les protéines nécessaires. Mais en quoi ce débat est-il préhistorique ? C'est une manière de disqualifier qui n'est pas agréable finalement et qui est surtout contre-productive, me semble-t-il, dans le débat. Charles ?
Oui. Puis alors, ça manque de clarté. Parce que débat préhistorique, dans quel sens ? Elle a fait un tweet ce matin pour dire que à l'île de Léron, on mettait en place un menu végétarien. Donc, et un tweet d'ailleurs qui a du succès.
Bien sûr.
Avec les photos.
Bah elle provoque. De la...
Voilà.
Elle fait de la com, Madame Pompili. Et elle provoque. Parce qu'elle provoque, parce qu'en plus, manifestement, elle dit le contraire de ce que dit M. Darmanin et M. de Normandie, mais personne ne lui dit rien. Donc elle fait de la provoque, ça s'appelle.
Ben c'est ça. Et puis, moi, je trouve que ça n'a rien d'écologique de s'opposer aux éleveurs et à la viande. Mmh. Ce sont eux qui façonnent les paysages de la campagne. C'est toute une économie dans certaines provinces. Les éleveurs, ils ont en face d'eux des fournisseurs, ils ont des mécanos agricoles, il y a tout un écosystème qui est brisé. Et alors même que ce secteur est en crise, je me le suis fait confirmer pendant le flash info, c'est 3,10 €, hein, et ça se négocie bien en francs.
Ah oui, ça vous m'avez épaté. Merci en tout cas Charles de ce témoignage. Christine est là, Christine, sur ce même sujet. Bonjour Christine.
Oui, bonjour Pascal.
Vous habitez la Charente, le menu sans viande à Lyon, ça vous fait réagir ?
Oui, ça me fait réagir moi parce que je suis à ESH, donc ce sujet que j'aimerais bien que vous abordiez un de ces quatre dans votre émission.
Faut que vous disiez ce que c'est AESH.
Voilà, je suis accompagnante d'élèves en situation de handicap sur un collège à Cognac. Et moi, je suis des élèves, même lors de leur repas. Donc, des élèves qui sont dans des classes ULIS, donc des unités d'inclusion dans des classes ordinaires, et qui, pour la plupart, ont des parents qui ont des moyens très modestes. Moi, j'ai connu des élèves qui, le soir, ne mangeaient qu'avec de la purée en sachet ou des chips. Et le seul repas qu'ils ont de convenable, c'est le midi. Donc, bien évidemment, certains élèves n'aiment pas le poisson. Et nous, dans notre collège, on a instauré la découverte de certains menus, style paella, couscous, menu américain, etc. Et moi, je pense qu'ils devraient faire la même chose sur un repas, une journée, faire découvrir ce que sont les repas sans viande une fois par semaine, mais pas tous les jours.
Je comprends. Et on peut
pas
souscrire à ce
moi,
que vous dites.
Moi, je connais beaucoup trop de parents d'élèves qui sont dans la... Alors, on va dire dans la misère, hein, parce qu'on en arrive à ce terme-là quand même, qui n'ont pas les moyens de faire manger de la viande tous les jours et même toutes les semaines à leurs enfants, et qui finalement se retrouveront peut-être à avoir des enfants qui ne mangeront plus du tout de viande, qui n'aimeront pas les steaks de soja ou qui n'aiment pas le poisson, parce que moi j'ai des élèves, les jours où c'est poisson, qui ne mangent rien, qui ne mangent que leur laitage.
Mais la vérité, Christine, ça va bien au-delà si on se dit vraiment les choses. Les menus végétariens, les enfants ne les aiment pas. C'est ça la réalité. On a tous eu des enfants de 10 ans, 12 ans, 13 ans. Ils n'aiment pas ça. Vous savez bien ce qu'ils aiment, les enfants. Alors, on peut dire on va les éduquer leur goût. Mais la vérité, dans les cantines, puisque moi, j'ai demandé à des gens qui ont des enfants, c'est quand il y a des menus végétariens, les enfants ne mangent pas. C'est
non,
ça la vérité. Mais ça aussi, le dire comme cela, j'imagine... que ceux qui défendent le repas sans viande doivent pousser des hurlements dans leur voiture ou là où ils m'écoutent. Mais c'est une vérité, puisque...
Oui, c'est une vérité.
C'est une vérité. Les gosses,
moi,
vous le savez bien.
Moi, je la vis tous les jours.
Ben voilà,
moi, je la vis
gosses,
tous les jours, tous
ça.
Les repas. J'accompagne 12 élèves. Et je peux vous assurer que si c'est un repas qui est un peu différent, où il n'y a pas de viande, où il y a
du poisson,
mange
pas,
ils
mangent des pâtes,
pas
des frites, des choses comme ça. Ben évidemment, on le sait.
Et le soir, ils ne mangent pas non plus correctement.
Ben bien sûr,
donc,
bien sûr, bien sûr, Christine. Évidemment. Bon, on marque une pause et on revient tout de suite, mais c'est pour ça que cette émission est intéressante, parce que les choses sont dites par les auditeurs, en l'occurrence. Merci à Christine et à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
On termine avec Christine qui réagissait au menu sans viande des enfants pour les enfants à Lyon, Christine.
Oui, moi je voudrais juste poser quand même une question à ces gens-là qui décident que d'un coup, du jour au lendemain, ils vont proposer des menus sans viande. Hein. Est-ce qu'ils ont même déjà testé les steaks de soja? Est-ce qu'ils ont même essayé une fois?
Parce que c'est pas bon?
Parce que moi, j'ai été honnête, hein, j'ai essayé. Je me suis dit, c'est la grande mode, hein, tout le monde en parle, il faut en manger. Hein, donc, pourquoi pas, puisque maintenant, on a des rayons dans les magasins, il n'y a pas de problème avec ça. Hein, au contraire, hein. Non, c'est pas, tout n'est pas bon, vraiment. Tout n'est pas bon. Et je me dis que si un adulte qui a du goût et qui connaît le goût des choses n'aime pas, je me demande comment un enfant à qui on n'inculque pas le goût parce qu'on n'a pas les moyens financiers peut apprécier ce genre de nourriture.
Alors Cyril est principal d'un lycée dans le Loiret et il va pouvoir vous répondre, Christine, parce qu'il pense. Cyril, bonjour. Cyril, bonjour. Est-ce que vous êtes avec nous, Cyril?
Oui, je suis avec vous, je vous entends.
Eh bien, c'est parfait, nous aussi on vous entend. Vous êtes donc principal dans un lycée. D'abord, ce que je disais, vous êtes au contact des enfants. Lorsqu'il y a un menu végétarien, nous sommes d'accord que les enfants ne le mangent pas et souvent ça va à la poubelle.
Bah, je m'inscris en faux, Pascal, parce que tout ça, ça s'accompagne d'un changement de culture. Nous, on fait les lundis verts. Oui, je suis désolé. On propose des menus végétariens, des protéines végétales. Alors, ça a la forme des boulettes de viande, ça a la forme d'un steak haché, etc. Et ça s'accompagne, c'est de l'information.
Et les enfants le mangent chez vous?
Alors, au début, non. Ils le mangent pas au début. Au mois de septembre, ils le mangent pas, Pascal. Mais au mois d'avril, ils le mangent.
Parce ils ont pas le choix.
Oui, parce qu'ils n'ont pas le choix, je suis d'accord.
Non, c'est pas une question de pas avoir le choix. Enfin, moi, j'ai été complètement estomaqué de... Monsieur de Normandie a porté le discours des lobbies de la viande ce matin.
On en... Mais arrêtez, c'est pas des lobbies, c'est la culture française, la viande rouge. Ce n'est pas des lobbies, c'est aussi notre art de vivre, c'est l'art d'être français, disons-le.
Bien sûr.
Mais c'est bien qu'on mange tous du tofu et des boulettes de soja, mais...
Est-ce qu'on les élèves, quand on leur sert des épinards, ils les mangent? Non. Si on fait du burger frites, ils le mangeront tous les jours. Et ce n'est pas l'objectif non plus. Il y a une grande diversité de la nourriture. Je disais à votre collaborateur tout à l'heure, est-ce que les gens qui achètent des tomates en ce moment s'offusquent d'acheter des tomates en ce moment qui poussent sous serre avec des chaleurs? Enfin, on fait chauffer tout ça. Et la qualité nutritionnelle de la tomate aujourd'hui, il y a une étude qui a été faite, je ne sais plus, par l'INSERM qui a mené cette étude, qui montre que la qualité nutritionnelle de ce qu'on mange, des fruits, des pommes, etc., on a perdu par rapport à autrefois quand c'était cultivé en plein champ et que c'était de saison. Et personne ne s'offusque de ça, qu'on achète des
fruits. Mais si, bien sûr que si, monsieur, bien sûr que si, on s'en offusque.
Non, je n'ai pas entendu que personne s'offusquait.
Bah oui, mais si, mais parce que vous n'écoutez pas, tout le monde s'en offusque, même les goûts, le goût de n'importe quoi a changé.
J'écoute très bien, j'écoute surtout les scientifiques qui, eux, analysent les choses. Donc, parce que, comme dit le Président, il y a 66 millions de scientifiques encore à l'heure actuelle qui vont nous dire comment il faut cultiver les choses. Moi, je soutiens les agriculteurs à qui on a obligé de cultiver de telle façon, de telle méthode, etc. Et on a amoindri la qualité nutritionnelle de nos produits. Voilà.
Bon, revenons en tout cas pour le menu sans viande, Cyril.
Si vous regardez bien, le seul problème, c'est que là, c'est une nouvelle mode. Donc on va l'imposer.
Mais c'est pas une nouvelle mode. Moi aussi, j'ai goûté les steaks de soja. Au début, on n'aime pas, etc. Mais on s'habitue, on améliore, on met de la sauce tomate.
On s'habitue, c'est quand même très étonnant comme formule. On s'habitue à tout, on s'habitue aussi au couvre-feu à 18h.
On s'habitue en masse, on a eu le débat aussi, Pascal. Oui, je propose ça à mes élèves. Ils ont découvert autre chose. Après, oui, ils ont de la viande. Ils ont sur le reste de la semaine, on n'a pas tout arrêté. Mais on peut quand même diversifier et montrer notre intérêt à défendre aussi notre planète, parce que ça va au-delà que de manger quelque chose dans une assiette. Là, j'entendais tout à l'heure le débat sur...
On va défendre la planète et on sera tous morts, nous, mais ça sera bien.
Ouais, mais ça, c'est votre opinion, Pascal. Je sais bien que vous êtes climato-sceptique, Pascal.
Ah non,
c'est
je ne suis pas climato-sceptique du tout. S'il vous plaît.
C'est pas la première fois que je vous entends dire...
Non, s'il vous plaît, ne disqualifiez pas, ne faites pas comme... Ne disqualifiez pas votre interlocuteur. Non, mais ne disqualifiez pas.
Je suis en train simplement de vous dire que...
Non, mais vous venez de me traiter de climato sceptique, donc ne disqualifie pas.
C'est pas la première fois que vous tenez ce discours. Pascal.
Mais quel est le rapport? Donc, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit on va défendre la planète et on va tous mourir. Pardonnez-moi. Oui, et si vous n'avez pas compris, et si vous n'avez pas compris la part de, mais bon, vous savez tout, bien sûr, parce que moi, écoutez, il y a des gens. Moi, je l'ai dit à cette antenne. Lisez Jean de Kerdazoué, qui n'est reçu nulle part d'ailleurs. Hein, qui a travaillé notamment avec Pierre Mauroy et lisez son bouquin par exemple La nature n'est pas bonne, qui est un bouquin très intéressant et qui permet d'avoir une autre opinion parfois que celle qui est donnée ici ou là. Et monsieur de Kerdazoué, je ne le prends pas pour un climato-sceptique, loin de là. Il travaillait avec Pierre Mauroy, il était directeur de directeur de la santé dans les années 80.
Ouais.
Mais terminons sur le menu sans viande, si vous me permettez, puisque vous êtes principal de ce lycée. Mais vous avez le droit. Peut-être que vous êtes militant, Cyril, tout simplement, et vous avez le droit.
Non, du tout, parce
peut-être que vous êtes un militant écologiste. Mais... Moi, je ne le conteste pas. Peut-être d'ailleurs
c'est votre
choix.
On a mis des abeilles sur le toit. Les élèves ont fait un jardin fleuri, etc. Oui.
Non, mais vous-même, dans votre engagement politique, peut-être que c'est ça votre tendance.
Non, mais moi, du tout, Pascal, je ne suis pas du tout. Je ne m'enferme pas dans cette idéologie-là. Bien au contraire. Mmh. J'essaye de voir un petit peu les opinions des uns et des autres, de partager les analyses des uns et des autres.
Vous savez, vous conviendrez que sur ce débat, tout le monde n'est pas d'accord.
Ah ben oui, ça j'ai bien entendu. Mais moi,
donc il n'y a pas de vérité.
Pascal, j'étais franchement heurté ce matin d'entendre le ministre apporter une parole. Je ne sais pas, il a révisé toute la nuit pour pauvre Benjamin Sportouf qui n'a pas pu lui faire entendre raison à un moment.
Mais vous-même, vous le disqualifiez, vous dites il porte la parole des lobbies. C'est ça qui me fascine. On ne peut pas avoir un débat apaisé.
Vous savez, à un moment, dans mon établissement, mon cuisinier avait mis des affiches, la viande de veau, etc., parce qu'on avait reçu d'un organisme, je ne sais plus lequel, des affiches à mettre dans les établissements scolaires. Non, je suis désolé, comme je ne défends pas la betterave, comme je ne défends pas je ne sais quoi, je ne mets pas d'affiches pour défendre une partie des choses. Et donc, il y a forcément des circuits d'information volontaires qui sont mis en place pour alimenter tout ça. Et donc, j'ai dit à mon cuisinier, non, on ne fait pas de publicité, on ne prend pas parti, et puis on n'affiche pas ces affiches-là qui viennent de je ne sais quel organisme qui ont trouvé nos adresses, qui nous envoie des choses. J'ai même reçu des choses des chasseurs une fois qui nous vantaient tous les mérites de la chasse, etc. Enfin, quand on veut toucher la jeunesse et leur faire passer des messages, on trouve tous les canaux d'information.
Même sur des choses comme la viande, on arrive à s'engueuler, pardonnez-moi cette formule triviale aujourd'hui, et que ces débats deviennent tellement passionnels. Et moi, je vais vous dire, le sentiment que j'ai, c'est qu'on dans 10 ans, dans 15 ans, les gens qui mangeront de la viande dans les restaurants, peut-être seront-ils attaqués par des militants qui auront décidé qu'on n'a pas le droit de manger de la viande. C'est ça qui me frappe dans cette société. L'hyperviolence parfois des minorités actives et la radicalité de certains. Merci Cyril en tout cas de votre témoignage et rassurez-vous, je ne suis pas ce que vous m'accusiez d'être. Cyril ?
Oui, je suis là.
Je vous dis au revoir et je vous remercie surtout. Je vous dis au revoir et rappelez-nous parce que c'est ça qui est intéressant lorsqu'on échange et qu'on n'est pas forcément d'accord. Merci également à Christine. Et on va terminer avec l'Euromillion. L'Euromillion. Je rappelle que Laurent Tessier a gagné il y a 3 semaines à peu près le gros lot de 200 millions. Mais très généreusement, il l'a donné à quelques amis et puis il a décidé de continuer de travailler avec nous. À tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il nous reste quelques minutes pour parler de l'Euromillion avec Alexandre, qui est chauffeur routier. Bonjour Alexandre, est-ce que vous jouez ce soir? 210 Bonjour, millions, Pascal. Je le rappelle.
Oui, je joue puisque je suis abonné sur 5 semaines.
Ah, et ça vous passez par le bureau de tabac ou vous passez par Internet?
Non, par le bureau de tabac.
Donc, qu'est-ce que vous faites du ticket?
Je le garde avec moi, précieusement.
Ah oui, parce que si vous gagnez, ça doit être terrible de gagner 200 millions avec le ticket. Vous allez le mettre où?
Surtout que là, si je gagne ce soir, et je pourrais valider que dans 5 semaines.
Ah bon?
Donc
pendant 5 semaines, vous gardez votre ticket?
Non, je pense que j'irai peut-être le mettre en banque dans un coffre.
Vous pouvez me le donner.
Ou
je suis un ami.
Oui.
Je le garderai précieusement. Mais vous pensez vraiment que vous pouvez gagner 210 millions? Parce que la probabilité, elle est de une probabilité sur combien?
C'est énorme, je crois.
Plus de 15 millions hein, de...
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
Bon. Est-ce que vous pensez sérieusement que vous pouvez gagner?
Ben, sinon, je ne jouerais pas.
Ouais, c'est
je voulais... Sinon, je serais... pour gagner de l'argent, j'aurais pu être footballeur.
Oui.
Mais il ne manquait pas grand-chose, le talent.
Oui,
donc, c'est... Donc, l'euro million, pour moi, c'est beaucoup plus simple.
Bon.
Et on m'a toujours dit qu'il fallait deux vies pour gagner. Et ma maman jouait, elle est décédée il y a 20 ans, et j'ai repris sa grille. Donc, c'est pour ça que j'ai toujours les mêmes numéros.
Et vous pouvez nous les donner, parce que comme ça, on peut peut-être le jouer avec.
Non, parce que comme la règle a changé, ils ont mis plus d'étoiles et moi, je ne les ai pas, les étoiles au-dessus de 10. Donc, ça me fait encore moins de chance
de
gagner.
Est-ce que vous savez ce que vous ferez si vous gagnez 210 millions? Parce que c'est 210.
Oui.
Vous savez ce que vous faites?
Oui, on fait un projet familial. C'est-à-dire qu'on voudrait ouvrir un centre de... comme un centre de camping, enfin de... avec des aménagements pour les enfants qui sont malades ou à mobilité réduite, pour les sortir de leur handicap, leur faire penser à autre chose, avec des chevaux, un plan d'eau, et puis des aménagements pour eux, et pour accueillir la famille, les frères et les sœurs.
Voilà. Bon, la probabilité de trouver les 5 numéros tirés, c'est une probabilité donc sur 2 millions. Nous sommes d'accord.
Oui.
Et la probabilité de trouver les deux étoiles, c'est 1,52. C'est une chance sur 66. C'est une chance sur 70 d'avoir les deux étoiles. Mais après, il faut combiner les deux. Et là, ça se corse. Et on arrive à une probabilité sur 139 838 160. Une probabilité sur 139 millions. Alors, Laurent Tessier qui joue, par exemple, voilà un garçon rationnel qui imagine qu'il peut gagner en mettant 2 euros et il a une probabilité sur 139 millions de gagner. Ouais. Et malgré ça, il joue. Ça, c'est fascinant quand même. Quand on dit que les gens sont parfaitement irrationnels, vous leur dites, vous avez une probabilité sur 139 millions de gagner 200 millions, et bien ils jouent. Ils jouent.
Moi, je joue 3 grilles.
Mais oui, mais vous n'avez aucune chance. Et en même temps, 100% des gagnants ont tenté leur chance. C'est ça qui est formidable.
Exactement. Mais c'est ça.
C'est ça. Je suis d'accord.
Le monsieur qui a gagné il y a quelques mois 200
millions,
je pense qu'avant de jouer, il s'est dit « pourquoi pas moi ?»
14h24, c'est maintenant. Laurent Tessier, il va venir pour le débrief. Il y avait Marie-Agnès. Très vite, Marie-Agnès. Vous avez 10 secondes parce que le débrief arrive et on est déjà en retard. Marie-Agnès.
Oui, moi je sais ce que je ferais si j'ai gagné.
Vous ferez quoi?
Moi, d'abord, j'ai 3 enfants, donc je leur donne de quoi s'acheter un appartement à Paris, parce que pour le moment, ils n'ont pas les moyens.
Ils pourront en acheter
plusieurs. Et puis, de nos œuvres, non, je donne pour le patrimoine, pour des restaurations de patrimoine. Et puis, je donne, comme je suis catholique, je donne à ma paroisse. Et puis, à des œuvres aussi qui me tiennent à cœur sur les enfants, pour les enfants handicapés.
Merci, Marie-Agnès. Le débrief, c'est maintenant.
OK. Au revoir.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Y a-t-il de plus en plus de violences chez les moins de 18 ans? Une collégienne de 14 ans a été tuée hier d'un coup de couteau dans le ventre. La scène s'est déroulée lors d'une rixe entre bandes rivales à Saint-Chéron dans l'Essonne. Maxime a été le premier à réagir dans l'émission.
Moi j'ai eu des bagarres au collège, j'ai eu des altercations. Mais à la fin, quand on rentrait chez nous, on était chez nous, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de surenchère, il n'y avait pas de photos. À cause de ces réseaux, nos enfants grandissent dans une ultra-violence.
6 mineurs sont en garde à vue. Marc est policier, justement, dans l'Essonne. Il a tenu à prendre la parole. A-t-il été surpris?
Surpris, non. Il faut vraiment un drame poignant pour que on rouvre le débat. Aujourd'hui, malheureusement, je pense qu'il faut plus punir et continuer à éduquer, parce que l'éducation, Maxime l'a très bien dit, elle part des réseaux sociaux, manque de contrôle parental de la part des parents.
Une violence des jeunes qui ne surprend pas aussi Jeanne, gérante d'un supermarché.
Même entre eux, ils se parlent mal, ils ont des gestes violents sans arrêt, et on a une jeunesse qui aime la violence.
Une émission riche en témoignages. Ce midi, Yvan a été délinquant il y a quelques années.
Pour marcher tranquillement dans un quartier, il faut être bien vu. Donc automatiquement, il faut suivre les règles qui sont données par ceux qui tiennent déjà le quartier au départ. Et puis quand j'ai réalisé, j'ai appelé mon père qui lui, mes parents étaient divorcés, qui lui était dans le Nord. Et je lui ai pas dit les faits, je lui ai dit simplement, papa, est-ce que je peux revenir? Sinon, la prochaine fois, ça, tu viendras me voir avec des oranges.
Mais vous, vous aviez un couteau, par exemple, quand vous étiez dans des bandes?
Oui.
Mais vous ne vous en êtes jamais servi?
Non.
Allez, je vais vous apporter un peu de sourire dans cette actualité très difficile. On continue notre apprentissage des langues des Jones.
Louzdé, ma daronne, des Jones.
Comment s'appelle-t-on jeune entre jeunes en ce moment?
D'abord, ils n'ont plus de prénoms, les enfants. Ils s'appellent tous gros. Et je vois pas. Mais je vous jure, je vois pas pourquoi on donne des prénoms à nos enfants. C'est tous gros.
Ça, c'est drôle.
Et hier, Pascal, vous aviez envie de donner la parole à celles et ceux qui veulent changer de vie. Notre réalisateur Greg Caranoni est absent ce midi. Ce n'est pas le fruit du hasard. Il est en direct avec nous. Où êtes-vous, Greg?
Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Hier, ça vous tenait à cœur qu'on évoque aujourd'hui les changements de vie. Alors voilà, cette idée m'a trotté dans la tête une bonne partie de la nuit. Du coup, j'ai décidé de changer de vie. Saluez toute l'équipe. À très bientôt, je vous embrasse.
Bisous Greg. Ce soir, mesdames et messieurs, tendez bien l'oreille. 210 millions d'euros sont à gagner.
Oh, et si j'étais riche,
méga jackpot et une info.
Je rappelle que Laurent Tessier a gagné il y a trois semaines à peu près le gros lot de 200 millions, mais très généreusement, il l'a donné à quelques amis et puis il a décidé de continuer de travailler avec...
Fake news, fake news.
Allez, merci Donald Trump. Allez, peut-être que certains d'entre vous diront ce soir s'il gagne.
Au revoir, Président.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui vous fera danser si vous gagnez les 210 millions d'euros ce soir.
Merci Laurent. On n'a pas parlé du changer de vie, on devait le faire, on n'a pas eu le temps.
Il faut le faire. Greg en a parlé dans le débrief.
Oui, je suis d'accord. Mais il faudra le faire demain ou après-demain avec cette jeune femme qui imaginait changer de vie. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RT.